France Inter.
Je peux goûter comme ça ?
Oui, 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 bien sûr.
C'est bon.
Aujourd'hui, je vous parle de la bouffe et de vos émotions.
Souvent, la cuisine était vraiment un objet à la fois de consolation par rapport à la perte de quelqu'un, aussi un chemin pour retrouver quelqu'un qu'on avait perdu.
C'est pour ça que l'éventail des recettes est très large, pour ne pas dire infini, parce qu'il dépend de chaque personne.
En Mongolie, ils n'ont pas le droit de manger de viande pendant toute la durée du deuil qui dure 49 jours. Et ils doivent manger du blanc pour chasser le noir. Et le 49e jour, ils doivent manger du sucré pour chasser l'amertume.
Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup et bienvenue au Grand Palais éphémère où se déroule depuis vendredi et jusqu'à ce soir le Festival du Livre de Paris, le grand raout annuel pour tous les amoureux de littérature, de romans graphiques, de beaux livres, mais aussi, bien sûr, de livres de gastronomie. Nous sommes très heureux d'enregistrer cette émission devant vous et avec vous, cher public, et avec aussi notre invité et nos chroniqueurs et chroniqueuses. Dire adieu à celui ou celle qui part. Célébrer sa mémoire, apprivoiser l'absence d'un être cher par la nourriture, autrement dit, faire son deuil en mangeant, c'est le sujet passionnant, bouleversant, pas du tout glauque ou macabre, comme on pourrait le penser, qu'aborde un magnifique texte qui vient de paraître aux éditions Actes Sud, La cuisine de la consolation, récits et recettes. Nous sommes très heureux de recevoir son autrice, Stéphanie Schwarzbrod. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous avez rencontré plus de 20 personnes appartenant à des nationalités, des civilisations, des religions différentes pour interroger le rôle que jouent la cuisine et la nourriture dans les différents rites funéraires qui existent d'une culture à l'autre. Et on va voir avec vous que manger pour ces personnes endeuillées, ce peut être une formidable source de partage, de réconfort, de joie. Mm-hmm. C'est aussi de la consolation, donc, puisque c'est le titre de votre livre. Vous allez même nous proposer quelques recettes que vous avez glanées au fil de vos entretiens. Alors, il y a du liquide et du solide.
Exactement.
Ah, on n'en saura pas plus.
Rouge
et blanc.
Pas totalement orange. Rouge et orange.
Rouge et orange, voilà. Dans la famille dont on va déguster, je demande trois fortes têtes, mais aussi trois fingles. Notre chroniqueuse historique, Elvira Masson.
Bonjour à toutes et tous.
Notre chroniqueur vin, Jérôme Gagnès.
Bonjour tout le monde.
Et notre gourmet lettré, Stéphane Solier. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Au menu, Elvira.
Des plantes sauvages comestibles.
Au menu, Jérôme.
On va tutoyer l'ivresse avec un vin fin et délicat.
Au menu, Stéphane.
Une tarte au bleuet à la sauce polar.
Ah, ça me plaît. Pour retrouver nos recettes, nos meilleures adresses, nos coups de cœur, nos livres, tous les contenus et les podcasts, le chemin est tout tracé. Franceinter.fr à la page. On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
329 auteurs et autrices, donc 42 Québécois quand même, puisque le Québec, je ne vous apprends rien, est l'invité d'honneur de cette nouvelle édition du Festival du Livre de Paris. Des dizaines de rencontres, de débats, de lectures, de séances dédicaces, 250 000 livres disponibles à la vente. Autant dire que le Festival du Livre de Paris est la plus grande librairie de France pendant un week-end, depuis vendredi et jusqu'à ce soir au Grand Palais éphémère. Et c'est l'occasion d'aller glaner quelques coups de cœur dans les travées de ce bel événement. Elvira, vous commencez avec un chouette récit.
Très chouette récit. Christine Campadieu a longtemps été vigneronne à Collioure, au domaine La Tour Vieille. Et Jérôme, vous la connaissez. Enfin, en tout cas, vous connaissez ses vins.
Oui, oui, je les connais un tout petit peu. Je connais ses vins. On a parlé d'un oui. de ses vins pendant le Covid. J'aime beaucoup les vins du domaine. C'est La Tour Vieille, si vous êtes à Collioure, il faut vraiment y aller parce que c'est très joli.
Alors Christine Campadieu, en plus d'avoir été longtemps vigneronne, a aussi été une très grande amie de l'écrivain américain Jim Harrison, l'auteur de Légendes d'automne, de Dalva, grand amateur de cuisine, de vin et d'alcool fort, mais jamais avant 16h30. Jim Harrison est mort en 2016. Pendant les 10 dernières années de sa vie, c'est Christine Campadieu qui lui servait de guide, de traductrice, de compagne de voyage en Andalousie, en Catalogne notamment, compagne de dîner, cuisinière parfois. Elle lui prépare notamment des fèves au boudin qui m'ont vraiment fait rêver. Elle a aussi passé du temps avec lui et sa famille dans le Montana. C'est ce compagnonnage qu'elle raconte dans ceci, Le sorcier et la luciole, sur la route et à table avec Jim Harrison. Alors évidemment, on l'ouvre parce qu'on est curieux de glaner des anecdotes qu'elle pourrait nous livrer sur le grand écrivain américain. Mais moi, c'est finalement elle qui m'a vraiment intéressée. Elle et ce destin de femme intrépide, amoureuse des grands espaces, comme son ami écrivain, qui a encore, à mon avis, beaucoup de choses à nous raconter. Le livre paraît chez Nourriture Fu, le 19 avril, il n'est pas encore sorti. Une super petite maison d'édition indépendante et engagée, qui publie notamment également Nora Boisouni et sa, j'allais dire, trilogie d'essais passionnants, à commencer par Sexisme et Manger les riches. C'est donc Christine Campadieu chez Nourriture Fu.
Le sorcier et la luciole, on se demande qui est le sorcier et qui est la luciole.
Ouais, c'est assez clair.
On a deviné, je pense. Voilà, en compagnie de Jim Harrison, formidable écrivain. Un grand merci, Elvira, pour le coup de cœur de ce texte. Cher Jérôme, on quitte l'univers livresque pour s'orienter vers l'univers de la bulle, plutôt.
Oui, exactement. Je voulais faire part d'une initiative que j'ai trouvée intelligente, qui relève d'un bon sens paysan qui se perd parfois un peu, qui manque parfois. On est en Champagne, à Damrys, et donc dans la vallée de la Marne. C'est plutôt à l'ouest d'Épernay et de Reims. On est dans la maison chez Jean de Telmont. C'est une maison de Champagne qui a été reprise par Ludovic du Plessis, qui s'est associé à un certain nombre de personnes, dont Leonardo DiCaprio, qui est un acteur bien connu et qui se soucie beaucoup du devenir de la planète. Et cette maison a pour ambition à la fois évidemment de faire des vins de qualité, on va s'en apercevoir dans quelques instants, mais aussi d'être la pionnière, d'être la plus avancée possible dans des démarches environnementales. Et il y a deux actions qui ont été menées que je trouve très malines, que pas beaucoup de monde fait, je trouve ça un peu dommage. D'abord, il a beaucoup travaillé avec Veralia pour la réduction du poids des bouteilles. Mine de rien, il faut savoir qu'une bouteille de champagne, ça fait 835 grammes. Il y a deux fois la pression d'un pneu dans une bouteille de champagne. Il y a 6 barres de pression, donc il faut un verre très résistant. Il a réussi à baisser à 800 grammes. Ça paraît pas beaucoup, 35
grammes. Sans prendre
grammes.
De risque.
Sans prendre de risque, mais 35 grammes, c'est considérable, rapporté aux millions de bouteilles qui sont expédiées chaque année. Donc ça, c'est un truc qui était compliqué à faire, mais ils y sont arrivés. Et une deuxième initiative très maline, il est allé voir son fabricant de verre et il a dit, ben voilà, il y a toute une série de bouteilles qui sont ce qu'on appelle en transition de couleur. Il y a un client qui veut telle couleur, un autre client qui veut telle couleur. Et là, il y avait 193 000 bouteilles qui sont sorties des chaînes de production et qui étaient destinées à retourner au four pour les refondre et avoir la bonne couleur.
Avec la dépense d'énergie que cela suppose.
Et il a dit, ben moi je prends les 193 000 parce que j'en ai rien à cirer du changement de couleur d'une bouteille à l'autre et au moins là, elles ne repassent pas dans le four et moi je vais les utiliser pour mes champagnes. Deux initiatives parmi tant d'autres chez Jean de Telmont. C'est malin, c'était pas ultra compliqué, mais il fallait le faire, il fallait oser le faire dans un monde qui est très marketé en champagne et Jean de Telmont l'a fait. Donc bravo et longue vie à cette belle maison. On aura l'occasion de déguster tout à l'heure le réserve brut qui est délicieux.
Parce qu'accessoirement, en dehors du contenant, le contenu est satisfaisant.
Sinon, j'en parlerai pas.
Ah, oui. Évidemment.
C'est une règle de base assez simple à appliquer.
Il fallait commencer par ça.
Il faut que le vin me plaise et il me plaît.
Mais il est vrai que la question du verre, rapporté en plus à la production viticole en France, c'est un sujet en termes d'empreinte carbone.
Majeur. Un propriétaire bordelais récemment me disait qu'ils avaient aussi abaissé le poids de leur bouteille, un cru classé. 30 tonnes d'émissions de CO2 en moins par an. C'est quand même énorme, simplement parce que la bouteille est plus légère.
Et on n'est qu'au tout début de ce débat. Hein.
Et on n'est qu'au tout début de ce débat, donc bravo à Jean de Telmont d'être une voie à suivre, je pense.
Merci Jérôme Gagnès. C'est Laurent Thomas qui réalise cette émission en public depuis le Festival du Livre de Paris. Avec Olivia Branger, les équipes de Radio France, chargée de production Pascal Bresse, Fabrice Rivaud pour la préparation, la cuisine de la consolation. On se retrouve avec notre invitée Stéphanie Schwarzbrod juste après Dance With Me du chanteur-compositeur anglais d'origine jamaïcaine Liam Bailey. On aime les livres et la cuisine sur France Inter. Je réalise que les rituels funéraires sont comme des sons de cloche qui nous rappellent à quelque chose. Des tuteurs qui nous tiennent droit, qui nous contiennent et nous libèrent. Que la cuisine, qui est quelque chose de si important pour moi, peut être porteuse d'autres traces et que l'on peut retrouver quelqu'un à travers la nourriture. L'idée que la cuisine soit amour, mémoire, consolante, me réconforte. Et soudain, je me souviens que quand j'étais petite, j'avais un lien très fort avec une vieille dame qui était l'assistante dentaire de mon père, dont le cabinet se trouvait au milieu de notre appartement. Elle me gâtait chaque jour de bonbons et de gâteaux, et je lui disais souvent « Quand tu seras morte, je déposerai des gâteaux sur ta tombe. » Ce sont quelques lignes très émouvantes glanées dans les premières pages de votre récit, Stéphanie Schwarzbrod. La cuisine de la consolation chez Actes Sud, qui s'intéresse, on l'a compris, à travers différents témoignages, mais également des recettes, à un pouvoir assez insoupçonné de la cuisine et de la nourriture, et pourtant très présent, on va le voir, dans de très nombreux rituels funéraires dans le monde. C'est celui de construire un pont entre les vivants et les morts. Comment est-ce possible ?
Eh ben, en fait, la cuisine, c'est la madeleine. Donc, c'est vrai que tout d'un coup, on mange quelque chose et on se retrouve transplanté des années en arrière avec une personne qu'on a aimée, avec qui on a partagé cette nourriture. De même que l'odeur. Tout d'un coup, dans mon livre, quelqu'un raconte qu'il cuisine à chaque anniversaire de la mort de son ami le plat qu'il lui faisait toujours, et tout à coup quand il rentre dans la cuisine, ben, il a l'impression d'être chez cet ami, et tout à coup le fait de manger ou de sentir fait que la personne qui n'est plus là devient presque présente.
Comment est né ce projet ? Vous le justifiez dans les premières lignes de votre livre. Comment est apparue cette idée ? Comment elle vous est tombée dessus ? Cette idée de cette curiosité à l'égard effectivement de rituels qui sont plus ou moins tabous ou méconnus.
Oui, alors en fait, elle m'est venue en voyant un spectacle qui s'appelait Sacre, de Lorraine de Sagazan, qui était justement autour des rituels funéraires. Et pendant le spectacle, à un moment donné, il racontait qu'une femme qui savait qu'elle allait mourir, qu'il y avait un cancer, faisait extrêmement bien les raviolis, elle était très connue pour ses raviolis, et donc elle en a cuisiné plein. Et elle en a congelé plusieurs sachets dans son congélateur. Et chaque année, ses amis se retrouvent et décongèlent un sachet de raviolis et les mangent en pensant à elle. Et en fait, dans ce livre, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont raconté des histoires comme ça. Souvent, il y a comme ça des rendez-vous dans l'année pour manger ensemble en pensant à une personne qui n'est plus là, des plats qu'il aimait ou des plats qu'ils faisaient ensemble.
Parce qu'alors, rappelons Stéphanie que c'est un volet d'une œuvre qui devient finalement assez pléthorique. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vous présente, vous êtes comédienne de théâtre à l'origine, autrice quand même de 7 livres de cuisine, dont un qui avait retenu notre attention, et notamment celle de Elvira Masson, publiée en 2019 chez Actes Sud. Vous me voyez venir, Elvira ?
La cuisine de l'exil ?
Ah, absolument.
Ah oui, j'avais adoré ce livre.
Parce qu'il s'intéressait au destin de ceux et celles qui ont dû quitter leur pays, pour fuir la guerre, la misère, la dictature, tous ces déracinés qui conservaient finalement dans un pays étranger la cuisine comme l'un des seuls biens immatériels, comme un des seuls patrimoines en fait.
Et puis une histoire de pont entre le pays d'où l'on vient et le pays où l'on vit.
Et après cette nouvelle péripétie, c'est même une quête et une enquête, la cuisine de la consolation, vous avez appliqué exactement la même méthodologie, celle de rencontrer des profils.
Oui.
De personnes qui vous touchent, dont vous voulez connaître l'histoire, dont vous avez accouché le témoignage. Oui. Il y en a 24 précisément. Dans la cuisine de l'exil, il y avait 24 personnes. Et là, j'ai compté, il y a exactement le même nombre de témoins.
Ouais, mais c'est un hasard.
Et qui sont d'ailleurs souvent des femmes.
Mais il y a des hommes quand même. Il y a des hommes.
Il y a des hommes, mais c'était pas du tout un reproche dans ma bouche. Des hommes, des femmes, des origines étrangères, souvent une nationalité française d'ailleurs, et une façon de exercer justement leur deuil ou leur rite funéraire par la nourriture.
Voilà, en fait, c'est des gens qui, la plupart, vivent en France, mais viennent d'ailleurs, enfin, ceux que j'ai rencontrés. Et donc, c'est vrai que quand je les ai interrogés, c'était vraiment comment ça se passait dans votre pays, dans le pays d'où vous venez, mais aussi comment vous faites aujourd'hui pour continuer à vivre ces rituels.
Il y a de très beaux témoignages. Sabrina, originaire de Croatie, Paola du Mexique, Françoise et les rituels funéraires dans le judaïsme, très important. Rougillata du Sénégal, Nino de Georgie, et puis des amis de l'émission qu'on a aussi déjà reçus à ce micro, Selva alias Jody Danas, d'origine tamoule, mais également une certaine Noabaz du Liban, ou encore Ryoko Sekiguchi, qui évoque les nourritures fantômes au Japon. Déjà, on peut dire que, historiquement, et même sémantiquement, on retrouve un parallélisme entre la mort et la nourriture, alors qu'a priori c'est quelque chose de paradoxal ou de contre-intuitif, parce que la nourriture ça concerne plutôt les vivants, alors que les morts, ils sont plus tellement physiologiquement en état de manger précisément.
Oui.
Et on retrouve quand même dans la langue et dans l'histoire ce parallélisme constant.
Oui, alors en fait, cercueil, ça vient d'un mot qui est sarc en vieux français, qui vient lui-même de sarcophage, qui veut dire manger la chair. Et donc comme si... Effectivement, dans ce cercueil, il y avait déjà cette idée de manger.
Il y a même dans la fête d'Halloween, avant d'être cette fête où on met un peu n'importe quoi, avec notamment beaucoup de marketing et de surconsommation dans les pays anglo-saxons, et la maladie, entre guillemets, d'Halloween, c'est, je vais me faire des copains, a atteint aussi tout l'Occident. À l'origine, il y aurait une origine gauloise.
Alors, j'ai découvert ça en écoutant un podcast qui s'appelle Bouffon autour des rituels funéraires, et où il disait qu'en fait, Halloween serait peut-être bien, finalement, une fête gauloise. Et donc, c'était une fête pour passer de la saison claire à la saison sombre. Elle durait 7 jours, comme les 7 jours de la Shiva. Et pendant ces 7 jours, il y avait un sas qui s'ouvrait pour que les vivants puissent communiquer avec les dieux, avec les morts. Et pendant ces 7 jours, ils mangeaient des banquets gargantuesques. Et les guerres étaient arrêtées pendant 7 jours. Plus de guerres, plus de travaux des champs, plus rien. Enfin, tout était suspendu et ils ne faisaient que manger.
En préparant cette émission, Stéphane Solim m'a passé un petit coup de fil. Lui qui a la culture longue comme le bras, notre gourmet lettré, et qui m'a dit ben, « Moi, ça me rappelle un autre rituel, celui des premiers chrétiens, où la mort et la nourriture étaient intimement liées. »
Et oui, j'ai découvert ce rituel lors de mes études doctorales, et c'est vrai que quand j'ai entendu la cuisine de la consolation, tout de suite j'ai pensé au réfrigérium. C'est un rituel très très intéressant des premiers siècles, 4e, 7e siècle à peu près, où les chrétiens, reprenant des rituels païens, organisaient un repas funèbre et les parents et les amis s'installaient à proximité ou sur les tombes du défunt pour organiser un banquet plutôt abondant. Et à l'occasion, outre ce banquet, il y avait une cérémonie vraiment très très particulière qui consistait à introduire à l'intérieur de la tombe des aliments plutôt liquides, du lait, du miel, du vin. On réalisait des orifices, des sortes de tubes libatoires en métal ou en terre cuite, et on faisait participer le défunt à ces agapes des vivants.
Le défunt est en quelque sorte sous perfusion de nourriture, c'est ça que vous êtes en train de nous dire.
Exactement. Alors, il faut savoir que les autorités ecclésiastiques voulaient absolument empêcher ce genre de rituel, parce que c'est saint Augustin qui le dit, hein, il y avait un soupçon de superstition, et surtout c'était l'occasion de débauche et d'ivresse. Donc il y a eu des combats contre ces rituels un peu trop païens aux yeux des autorités.
On va parler de l'ivresse tout à l'heure avec notre Jérôme Gagnès national, mais ce qu'il évoque, notamment manger au cimetière, parfois même sur la tombe du défunt, ça rappelle quelques souvenirs que certaines personnes que vous avez interviewées vous ont raconté, notamment dans les pays d'Amérique latine.
Oui, au Mexique, pendant la fête des morts, en Guadeloupe. Pareil pendant la Toussaint, à Haïti, pendant la fête des morts, et puis beaucoup dans les pays de l'Est, et notamment en Moldavie, où il y a la Pâque des défunts, en Moldavie et Roumanie, et où donc Natacha, que j'ai interrogée, me racontait que il prenait tous les tapis de la maison, il les installait sur les tombes, et il mangeait entre voisins de tombes, ou alors en Géorgie, dans le très beau film de Nino, « Dites à mes amis que je suis mort », on les voit vraiment trinquer avec la tombe, verser un peu de vin pour abreuver le mort, même allumer une cigarette et la laisser se consumer pour le faire fumer. Enfin, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui.
Il y a des codes, des règles, des traditions vraiment très différentes, et c'est ça toute la richesse de votre livre, qui en fait d'ailleurs presque, on se le disait avec Elvira en préparant cette émission, un traité d'ethnographie ou d'ethnologie culinaire. Hein.
Oui, c'est vraiment un manuel même que les étudiants en ethnologie ou en anthropologie peuvent lire comme sujet d'étude. Quoi. C'est passionnant et ça se lit en même temps comme un roman. Mmh.
Mais au-delà de tous les particularismes d'une culture à l'autre de ces rites funéraires, il y a quand même des valeurs tout à fait universelles, celles d'être heureux et d'être joyeux pour accompagner le défunt. Alors, je ne sais pas si c'est vers l'au-delà, parce que parfois, selon les religions, évidemment, il y a aussi l'animisme, etc. Mais en tout cas, c'est cette idée de développer et d'exercer une forme de réconfort. Il y a aussi, et on le retrouve très souvent dans les rites funéraires que vous avez côtoyés, cette volonté de nourrir les personnes endeuillées, de faciliter la vie des personnes qui subissent leur deuil en leur apportant de la nourriture au moment de les visiter.
Bah, d'une part, c'est une manière de les réconforter. C'est aussi une manière de se dire que pour pas qu'ils se laissent eux-mêmes, qu'ils se laissent mourir, de leur dire bon allez maintenant faut continuer à vivre, faut manger. Et puis c'est surtout cette idée que la nourriture se fait un pont entre les vivants et les morts, c'est beaucoup dans le partage. Et donc c'est important de manger cette nourriture avec d'autres. Et c'est aussi parce qu'on la partage avec d'autres que ça a un sens. Et que ça crée du lien avec la personne qui est plus là.
Il y a notamment le témoignage de Rougita, jeune française d'origine sénégalaise qui vit avec sa famille en Picardie. Son père malheureusement décède en 2016 d'un cancer foudroyant qui ne prend que quelques temps. Elle est musulmane et elle vit effectivement ce rite funéraire avec un défilé permanent d'amis, de proches, de cousins qui viennent avec des paquets de riz, au point de remplir une pièce entière de l'appartement.
Ben c'est vrai qu'elle s'est vue tout à coup. Chacun apporte de la nourriture. Alors, ça peut être, effectivement, comme vous dites, pas forcément un plat préparé, mais ça peut être des packs de lait, des 20 œufs. Et elle, pendant 30 jours ou 40 jours, je ne me souviens plus, elle a reçu tous ces gens. C'est-à-dire que les condoléances durent extrêmement longtemps. Et c'est quelqu'un qui était assez féministe, qui gagnait déjà bien sa vie, et tout ça, qui s'est retrouvé à la maison, à la cuisine, avec sa mère, ses sœurs, à nourrir tous ces gens qui venaient tous les jours, matin, midi et soir. Et voilà.
Et en parlant du Sénégal, justement, il y a un petit gobelet surprise. Attention, c'est à deviner à l'aveugle, qui a circulé dans notre public. Bon, il y a une couleur assez caractéristique, mais c'est pas forcément évident. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui a trouvé. Comment vous vous appelez ?
Anne-Caroline.
Anne-Caroline, est-ce que vous avez une petite idée de l'identité de cette boisson ?
J'ai supposé un jus de bleuet avec de la menthe.
Alors, il y a quand même une demi-bonne réponse, puisqu'il y a effectivement de la menthe, mais il ne s'agit pas de bleuet. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Ah.
Bonjour, je m'appelle Christelle.
À votre avis ?
Alors moi, je pense plutôt que c'est de la canneberge.
Non plus.
Ça ressemble, c'est vrai.
Ah, madame.
Ouais. Bonjour. Moi, bonjour. Je pense que c'est de la grenade.
Non plus. Intéressant. Ah, la grenade, c'est intéressant parce qu'elle est note acidulée.
Bonjour Virginie, je pensais au bissap.
Oui. Définition du bissap, Stéphanie, que vous avez préparé vous-même.
Que j'ai préparé moi-même, mais sur les conseils de Rougita, parce que c'est elle qui m'a fait goûter et qui m'a donné la recette. Donc, c'est des feuilles d'hibiscus séchées qui bouent pendant une demi-heure.
Qu'est-ce que c'est bon, c'est rafraîchissant.
Voilà, et juste à la fin, effectivement, on rajoute quelques feuilles de menthe et du sucre. Mais les feuilles de menthe, il faut les mettre vraiment à la fin, ça infuse à peine. Et c'est vrai que c'est très rafraîchissant.
C'est très très bon et moi je connaissais pas la recette avant de goûter. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la dimension finement amère, très légèrement tannique. Il y a vraiment du végétal dans cette boisson. Évidemment, si c'est des feuilles qui bouent, il y a un moment où qui sont blanchies, il y a un transfert de ce végétal dans le liquide. C'est très très bon.
Avec les notes rafraîchissantes de la menthe, c'est le bissap que l'on retrouve dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Mais c'est un cousin, le bissap, du carcadet que l'on boit en Égypte, mais également en Turquie. Le thé d'hibiscus, l'infusion d'hibiscus, c'est vraiment une boisson très populaire, notamment dans les pays chauds et autour du bassin méditerranéen, parce que c'est une boisson rafraîchissante.
On va déguster sur France Inter.
Cher Jérôme, l'ivresse fait l'objet d'un texte stimulant que vous avez particulièrement apprécié. Ah,
c'est un des plus beaux.
Alors,
je suis fier de moi.
Très beau geste et très beau bruit, bien net.
On vous sert un coup de blanc d'ailleurs pendant que je vais vous parler de ce livre. L'auteur, Leslie Brochaud, dit que ce livre parfois se lit avec un verre de bon vin à la main.
Oui.
Donc je vous encourage à vous saisir de ce magnifique blanc qui vous est servi à l'instant par Fabrice.
Avec modération, évidemment.
Évidemment. Alors, Ivresse de Leslie Brochaud. Leslie Brochaud, elle se définit elle-même comme une plume du vin. Elle écrit sur le vin, elle écrit pour des interprofessions, pour des producteurs, pour des tas de gens. Elle écrit sur le vin depuis longtemps, c'est une vraie passionnée de vin. Et elle a écrit un livre qui s'appelle donc Ivresse. C'est aux éditions Apogée, collection Le Savoir Boire, dirigé par Pierre Guigui, qui est un homme formidable, un grand pionnier des concours de vin bio. C'est un monsieur que j'estime beaucoup. Et il fait une très belle collection qui s'appelle Le Savoir Boire. Et donc ce livre, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que il est à la fois personnel, il est nuancé, c'est tellement rare, il est érudit.
Parce que c'est un sujet sensible.
Oui, mais d'une façon plus générale, les propos nuancés se font de plus en plus rares. Et Leslie écrit un livre nuancé, c'est effectivement un sujet sensible. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'on apprend énormément de choses. On apprend notamment, par exemple, dans un merveilleux chapitre, c'est le chapitre 4, l'acte 4 du livre. Elle interviewe Gabriel Lépouzé, qu'on ne présente plus, qui est un neuroscientifique extraordinaire.
Qui travaille à l'Institut Pasteur. On le salue.
On le salue. Et qui décrypte les effets de l'alcool sur le cerveau. On comprend pourquoi l'alcool fait de l'effet sur nous, sur notre personnalité, sur notre perception, parce qu'il fait de l'effet sur le cerveau. C'est un des chapitres les plus intéressants, j'ai trouvé, parce qu'on comprend, et c'est toujours bien de comprendre un phénomène dont on est parfois, sinon victime, on le subit parfois. Et donc, ça permet de mieux se connaître, de mieux comprendre. Et puis aussi, elle évoque l'ivresse sous tous les angles. À la fois sous l'angle du bonheur, de la joie, parce que l'ivresse, c'est aussi ça. On la recherche éventuellement aussi pour ça. Elle évoque l'ivresse d'un point de vue plus philosophique, historique. Et elle termine son livre par un chapitre très intelligent, travaillé, sur comment mieux se connaître, comment mieux se maîtriser, comment apprendre à boire, apprendre qu'on ne boit pas une bouteille entière au goulot d'un coup, apprendre qu'il y a mille choses qui se cachent derrière un breuvage alcoolisé, des traditions, une culture, un savoir-faire, des paysages. Et elle cite notamment, pour conjurer le danger qu'il y a d'une ivresse un peu trop fréquente, ça finit par être l'alcoolisme, qui est un désastre personnel, qui est une maladie. Et elle interroge une addictologue qui s'appelle Carole Mauger, et une addictologue qui a un propos nuancé et que je trouve très intelligent et très très important. Si on peut dire quelque chose d'essentiel à quelqu'un sur le rapport à l'alcool, c'est quand vous n'êtes pas bien, si vous êtes stressé, si vous avez un problème, ne buvez pas. C'est une règle d'or extrêmement simple qui doit être marquée, qui doit être gravé sur le front de chacun de ceux qui aiment boire du vin ou de l'alcool. Quand on n'est pas bien, on ne boit pas. Quand on est triste, on ne boit pas. On boit quand on est heureux, quand on est avec des amis. Et il faut que ça reste quelque chose de relativement exceptionnel. Ce livre, je vous le recommande chaudement. Il est passionnant. Il est éclairant pour soi-même. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre.
Vous nous en rappelez les références, Jérôme?
Oui.
Et montrez-le à notre public.
Ivresse de Leslie Brochaud aux éditions Apogée dans la collection Le Savoir Boire.
Mais rassurez-moi, c'est pas un livre que vous avez débouché en début d'émission.
C'est pas un livre que j'ai débouché. Pour accompagner ça, je vous parle d'un domaine que je suis depuis 4 ans. On est à Pessac-Léognan, c'est au sud-ouest de Bordeaux. Il y a 1600 hectares de vignes, ça produit des rouges et des blancs. Et c'est une appellation qui, d'une façon générale, produit des vins que je trouve souvent un peu stéréotypés. Je m'ennuie parfois à goûter ces vins-là, pas tous bien sûr, mais parfois. Et j'ai découvert dans ce domaine un vin qui m'a beaucoup plu, en blanc comme en rouge, parce qu'il n'est pas stéréotypé, et notamment un rouge, il n'y a pas de bois, c'est un élevage en cuve inox pour 70%, 30% en œuf béton, ça s'appelle la cuvée Paul du château Auberget, c'est Paul Garcin qui produit ce vin, et c'est un vin qui est fin, qui est élégant, j'ai aimé le toucher de bouche délicat de ce vin, l'intensité aromatique, la complexité, c'est un vin qui pourra très bien vieillir, mais c'est un vin qui offre une pureté de fruits, et finalement, il n'y a pas de média entre le lieu et le vin, puisqu'il n'y a pas d'élevage, il n'y a rien. J'ai beaucoup aimé ce vin, je vous engage vraiment à vous intéresser à ce château en Pessac-Léognan, c'est le château Auberget, ils sont à Léognan, ils font des vins qui sont vraiment délicieux. La cuvée dont je vous parle là, elle vaut 30€, c'est un prix, mais la naissance du petit, c'est des vins qu'on va garder 15-20 ans, parce que c'est des vins de garde, c'est vraiment des grands vins de Bordeaux, dans un style qui est finalement relativement moderne et qui renouvelle le genre. Donc je félicite Paul Garcin, c'est vraiment un vrai vrai coup de cœur à Bordeaux ces dernières années.
Merci beaucoup, on retrouve toutes les références de votre coup de cœur et de votre livre sur franceinter.fr à la page On va déguster. Il est question d'alcool, Stéphanie Schwarzbrod, dans votre essai, puisque notamment Luna, qui s'exprime sur les rites funéraires en Corée, évoque l'alcool comme un moyen de communication avec les morts.
Oui, et d'ailleurs c'est drôle parce qu'elle dit, mais finalement ça a la même racine spiritueuse, qu'elle était très étonnée quand elle est arrivée en France et qu'elle a vu sur les déventures spiritueux, parce que ça a effectivement un lien avec l'esprit.
Spiritueux, spirituel, lien vertical vers l'au-delà. Hein. C'est ouais. aussi la symbolique très forte des alcools en France. La part de l'ange, la part des anges aussi.
C'est l'ivresse. L'ivresse est considérée dans beaucoup de cultures comme un moyen d'approcher les dieux. Donc c'est au cœur de cette réflexion et notamment des rites funéraires.
Dans un instant, une maison d'édition engagée avec Elvira Masson, de la littérature québécoise et gourmande, avec Stéphane Saulier et bien d'autres recettes avec notre invitée Stéphanie Schwarzbrod.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau. Prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marron, prudent, prends garde à ton chapeau. Les gens foutraient, les gens trouvent, mais disent du vent furibond qui rebrousse les bois, retousse les toits, détrousse les robes. Des gens foutres et des gens probes, le vent, je vous en réponds, sans souci, et c'est justice, comme de Colin tampon. Si par hasard, sous le pont des arts, tu croises le vent fripon, hey, prudence, prends garde à ton jupon. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolante, nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard,
c'était le vent de
Catherine Ringer.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
On va déguster, dresse le couvert au Festival du Livre de Paris, au Grand Palais Éphémère. Merci à tous d'être là. Nous sommes en compagnie de Stéphanie Schwarzbrod, la cuisine de la consolation chez Actes Sud, Elvira Masson, Jérôme Gagnès et Stéphane Saulier, la cuisine de la consolation. Un tour du monde quasiment, des rites funéraires pour analyser, décrypter, disséquer la relation, la belle relation d'ailleurs, le beau lien entre la nourriture, la cuisine et les morts. Et dans votre livre, Stéphanie, il n'y a quasiment aucun exemple de rites funéraires français ou occidentaux comme si nous avions un rapport un peu oublié ou un rapport un peu différent à la mort. Mais il y a quand même un chapitre consacré à une expérience incroyable, une expérience singulière menée dans le département de la Creuse. Voici ce que raconte Doriane.
C'était une grande tablée de gens qui essayaient de réaliser des choses assez techniques. Et comme c'est toujours très long et assez minutieux, tout d'abord les gens s'agacent ou pensent ne pas savoir faire. Puis chacun s'y met, rentre dans les gestes, un peu comme on entre en méditation, et les langues commencent à se délier. C'est un temps très étrange où les gens racontent ce qu'il se passe dans leur vie car ils ne se sont parfois pas vus depuis longtemps. Et à travers tous ces récits personnels, on recroise la vie de la personne défunte de manière complètement aléatoire, à travers leurs souvenirs et ce qu'ils sont capables de raconter à ce moment-là. Ce sont toujours des moments forts. Quand les proches ont vu le résultat, cela a créé un nouveau lien entre eux et le disparu. Ils avaient réalisé quelque chose qu'ils n'imaginaient pas pouvoir faire. Cela les a surpris. Pourtant, c'était bien eux qui l'avaient réalisé. Tout a été mangé, tout a disparu. Cela a été comme une montée en apothéose, puis plus rien. Les gens sont venus, il y a eu des chants, des mots dits, le repas, et les gens sont partis.
Témoignage incroyable de Doriane dans la Creuse. Mais alors Stéphanie, resituez-nous le contexte. Il s'agit en fait de l'activité d'une association implantée dans ce département de la Creuse.
Oui, donc elle fait des célébrations funéraires. Et là, elle était chez un ami qui venait malheureusement de mourir, qui venait d'une famille très nombreuse. Et donc, elle était dans cette maison avec tous les frères, les sœurs, les neveux, les nièces. Et elle leur a dit, bah, écoutez, le repas des funérailles devait avoir lieu 3 jours plus tard. Elle leur a dit, écoutez, moi, je suis dans la cuisine, viens qui veut. Et donc, elle leur a fait faire, parce qu'elle, elle veut vraiment que ce soit beau. Et elle fait des choses très précises, très minutieuses. Si vous allez sur son site, c'est absolument incroyable. Les photos qu'on voit sont magnifiques. Et donc, elle leur fait faire des roses de navets, de carottes, de tomates, des sablés en forme de plein de choses. Et donc là, petit à petit, les gens sont venus et il s'est passé quelque chose de très beau, puisque chacun, au début, s'énervait, se disait « mais je ne sais pas faire, mais c'est compliqué », et tout ça. Puis petit à petit, ben, effectivement, comme c'était très précis, ben, ils se concentraient. Et puis, à ce moment-là, la parole se libère et quelque chose se passe entre tous ceux qui sont là, qui viennent de perdre quelqu'un qu'ils ont tous aimé, et quelque chose se passe avec cette personne qui vient de partir.
Il y a comme une espèce d'exutoire ou d'échappatoire à assister à ce genre de cérémonie. Il y a un soulagement, une consolation au bout du compte.
Oui, parce que bah, là, par exemple, pour Doriane, c'est important que ce soit beau. Et par exemple, c'est important qu'il n'y ait pas d'assiette et qu'il n'y ait pas de déchets. C'est-à-dire que bah, les gens mangent et tout est, par exemple, sur des feuilles d'endive. Ou, elle fait en sorte qu'il n'y ait pas de déchets et que la chose reste belle jusqu'au bout.
Stéphane Solier, si on cherche bien, il existe encore dans nos régions des traditions funéraires où la mort est associée à la nourriture.
En France, oui, il y en a. Alors, il y a des traditions qui sont, allez, sans jeu de mots, laissées pour mortes. Qui sont un peu abandonnés. Je pense en Bretagne, on laisse dans certaines régions un peu rurales, notamment, on laisse sur les bords des fenêtres ou sur la table pour les âmes des morts la nuit de la fête des défunts des mets qui sont censés être disponibles pour les âmes des morts qui reviennent. Mm-hmm. Je pense en Bretagne au cidre, au lait caillé, au lait ribot, à des crêpes chaudes. En Corse, pendant longtemps, on a laissé des châtaignes bouillies, des pâtes et de l'eau. Une partie du dessert aussi en Provence. Ça, ce sont des traditions qu'on a un peu abandonnées. Mais on a quand même encore aujourd'hui dans toute la France hexagonale, mais aussi dans les Antilles, des traditions de repas pour célébrer cette fête des défunts. Et on peut penser, alors, il y a vraiment des ingrédients qui reviennent très très souvent, les pois chiches, les châtaignes, dans tout ce qui est la Grande Provence, le comté de Nice, en Corse, on a des fêtes, on appelle ça des soupes des morts, à base de pois chiches, notamment avec la symbolique du pois chiche qui est reliée à l'idée de la mort. Toujours dans les régions françaises, on joue beaucoup sur la symbolique des ingrédients, notamment le pain qu'on a à base de ça, qui s'appelle la salviata, qui est à base de sauge. Cette sauge qui est la plante des morts, la plante de la vie, hein, sauge, salvia, la vie sauve. On peut vraiment visiter toutes les traditions dans la France hexagonale et antillaise et on verra qu'on a pas mal de traditions.
Et il y a d'ailleurs l'idée de mettre le couvert pour le mort aussi dans de nombreuses régions françaises, hein, un couvert vide. Oui. Qui est une façon finalement de convier le défunt à la table des vivants.
Alors, c'est Giovanni au Mexique qui me racontait justement que pendant la fête des morts, il y avait au moins 10 places vides, que souvent il était assis à côté de son oncle mort, que sa grand-mère n'arrêtait pas de passer les assiettes en disant « Ah, mais il est froid ton plat, je vais te le réchauffer », alors qu'il n'y avait personne a priori qui le mangeait. Mais il y a vraiment cette idée que les morts sont là.
Stéphane Solier évoquait à l'instant la salvia, la fameuse sauge, transition toute faite vers Elvira Masson.
On va déguster sur France Inter.
J'ai presque envie de vous dire, Elvira, que vous allez nous faire manger les pissenlits par la racine.
Ah, mais oui, pas loin, c'est
excellent.
Pas bête. En début d'émission, j'ai employé les adjectifs indépendante et engagée pour qualifier la maison d'édition Nourriture Fût. Ben, à l'occasion du Festival du Livre, c'était évident, j'allais enfoncer le clou avec une autre maison d'édition. Allez, on y va. Indépendance, engagement, éco-responsabilité sont vraiment au cœur des valeurs de cette maison qui a été fondée il y a plus de 150 ans en Allemagne. C'est Ulmer, dont la filiale française a été établie il y a 30 ans.
Formidable maison d'édition, très engagée, tournée évidemment vers la cuisine sauvage, la cueillette.
C'est ça. Elle fait la joie des amoureux de la nature, des jardiniers en herbe ou confirmés, des passionnés de biodiversité, des amateurs de limaces et de toilettes sèches. Non, je rigole, mais enfin, quoique, on va y venir.
Je vous laisse. C'est hyper engageant.
Je vois le gagner, ce qu'il a fait au ciel.
C'est, honnêtement, t'arrives à nous faire rêver, c'est ça qui est beau, Elvie.
C'est pour ça que je suis là. Je voulais saluer ici l'une de ses plus récentes collections qui s'appelle Résilience, créée et dirigée par Charles-Hervé Gruyer, fondateur de la ferme du Bec et Loin dans l'Eure, pionnier de la permaculture. Alors, c'est une collection de livres petit format pour la plupart, dédiés à la vie quotidienne, en ville ou dans les campagnes. Une collection lucide qui cultive l'optimisme pour tenter d'apporter des solutions pratiques, poétiques, créatives et nourricières. Et je cite Charles-Hervé Gruyer, « Contribuer joyeusement à la naissance du monde de demain plutôt que de se lamenter sur l'effondrement du vieux monde. » Elle est fabriquée de façon éco-responsable, avec du papier fait de fibres recyclées, des encres végétales, une impression en Italie, et fait l'objet d'une compensation carbone en partenariat avec le label Climate Partner dans le cadre d'un projet qui vise à nettoyer les océans du plastique. Alors, quand on vit en ville, peut-être qu'on est un peu moins concerné par les thèmes de certains ouvrages. Enfin, d'ailleurs, je parle peut-être que de moi. Par exemple, filer les fibres naturelles, faire son bois de chauffage sans pétrole, construire une éolienne et produire son électricité. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça me concerne moins directement. Mais certains sont vraiment très, très universels. Je pense à réduire son empreinte plastique, faire son compost, apparaître bientôt, se nourrir de son jardin, faire son pain formidable de Farah Kerram, que Zazie Tavissian avait évoqué dans une précédente émission, ou bien produire des légumes en hiver de notre ami
Xavier Mathias, notre spécialiste du potager dans l'émission.
Voilà. Le dernier titre paru, vous l'avez devant vous, François Régis. Il s'agit de cuisiner les plantes sauvages du jardin. C'est un petit bijou. Son autrice, Tiziane Hatton, nous dit tout. Des mauves, pimprenelles, pissenlits, achillées millefeuilles, orties, sureaux, lierres terrestres, kénopodes blancs, mourons des oiseaux et autres plantes parmi les 26 qu'elle a choisi de passer au crible de son expertise et de son écriture très fine. Les plantes sont là, partout autour de nous, mais les voit-on vraiment ? Elle pose la question et nous apprend à ouvrir les yeux pour les identifier, les cueillir, les transformer. Ces 26 plantes sauvages, spontanées et modestes. Ainsi de la ravissante grande mauve, c'est le premier post-it rose, la grande mauve, avec ses jolies fleurs et aux feuilles qu'on peut poêler et qu'on cuisine si peu en France et qu'on peut poêler avec des oignons pour faire la robiza tunisienne.
Wow.
Tiziane, elle, fait aussi des onigiri exquis avec les feuilles de mauve. Elle les hache, elle les fait revenir à la poêle, elle les mélange avec du riz à sushi, elle façonne ces petits pavés d'onigiri et elle les entoure dans des feuilles de mauve. Elle fait également un écrasé de pommes de terre au lamier qui apporte son goût puissant de sous-bois.
Ah, ça c'est le deuxième post-it.
Voilà.
Elle fait très envie, cette...
Et en même temps, j'aurais pu mettre des post-it à chaque page, tellement les photos sont belles et tellement les recettes sont alléchantes. Moi, je vous ai apporté à chacun un petit bouquet d'une plante sauvage. C'est une plante aromatique.
Moi, je l'ai reconnue.
Alors vous, ça... OK. Et les autres ? Jérôme.
Moi, je ne vais pas mentir, hein, c'est Stéphane qui m'a balancé l'info.
Alors, Stéphane.
Vous êtes vraiment des tricheurs, en fait.
Vous l'avez, Stéphane ?
Non, je ne l'avais pas, non.
Enfin, on n'a pas encore révélé la plante, mais de quoi s'agit-il ?
Il me semble que c'est de la mélisse.
Oui. Bravo, avec son faux air d'ortie un peu, mais
exactement.
C'est de la mélisse.
Son faux air d'ortie et son parfum citronnel.
Oui, c'est ça. Voilà. Moi, j'avais dit citronnelle.
Oui, bah, c'est la citronnelle française, on va dire.
Ça, vous allez me faire une infusion de mélisse, parce qu'il paraît que ça calme, Jean Gagné. Ça va vous faire du bien.
Très bien.
Alors, je cherchais une entrée mélisse dans le livre. Elle n'y est pas, mais elle est dans un autre petit livre génial, toujours chez Ulmer. C'est le mini-guide des plantes qui soignent. De Anna Borowski, épatant. Alors moi, la mélisse, j'utilise en citronnade l'été fraîche. J'en mets un petit peu sur les fraises, mais alors vraiment avec parcimonie, c'est très puissant. On condimente un tout petit peu les fraises, c'est bien avec des petits pois, c'est bien sur une salade de haricots verts. Et il y a un petit bouquet pour chacun parce que la mélisse est riche en propriétés vertueuses. Pour vous, Jérôme, la mélisse est une plante digestive. Elle stimule les sécrétions biliaires qui favorisent le travail du foie.
Ah, ça, c'est, non, sinon, ben, ça, c'est très adapté pour moi. Merci, Elvira.
Ou sinon, vous en faites une liqueur. La recette est dans le livre.
Je suis monté un peu fin en termes de quantité, non ?
Mais il faut au moins ça, je pense.
Ouais.
Elle entre d'ailleurs dans la composition de la bénédictine, la mélisse.
Ah, bah voilà.
Pour vous, François Régis, la mélisse a un effet sédatif proche celui des benzodiazépines.
Vous vous entendez que je suis nerveux ?
Indiqué en cas d'hypernervosité. Et pour vous, Stéphane et Stéphanie, vous êtes parfaits. Donc, c'est juste un bouquet.
Ah, ok, bah, c'est
un bouquet parfumé.
Ah, bah, pas d'être venu, on part avec un costard sur mesure. Hein.
Merci beaucoup, Elvira et Vive. Évidemment, Ulmer, cette maison d'édition engagée, très tournée vers la biodiversité. Il y a des pins dans notre assiette. Stéphanie, il est temps de nous en révéler l'identité. Ils circulent auprès de notre public. De quoi s'agit-il ?
Alors, il y a du pain béni qui est servi à la sortie de la messe des funérailles chez les orthodoxes au Liban.
Oui.
Et il y a le pain des morts qui est mangé au Mexique pendant la fête des morts.
Le pain béni, il y a une...
Fleur d'oranger.
Voilà, ouais. Oh là là, il y a un parfum formidable de fleur d'oranger. Mmh. La semaine dernière, nous étions à Nice.
Ouais.
Et on a humé une autre fleur d'oranger de Valoris, tout à fait authentique. On y est là. On est autour du bassin méditerranéen.
Ouais.
Absolument spectaculaire.
Et cette recette est vraiment géniale. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a aussi de la fleur d'oranger dans le pain des morts.
Ah bon?
Oui, moi j'ai senti vraiment la fleur d'oranger dans celui-là, plus intense que dans le...
Parce qu'il y a aussi de l'orange. Il y a les deux.
Ah oui, d'accord. Okay.
Preuve que finalement, les recettes et les cultures, les rites sont plus proches d'une culture à l'autre qu'on imagine.
France Inter. On va déguster.
Direction la belle province pour sa littérature et sa cuisine avec Stéphane Solier.
Eh bien oui, je vais vous parler de la petite cousine québécoise des auteurs de polar, Andrea Camilleri, Donna Leon, Manuel Vázquez Montalban, Jean-Claude Izot, etc. Il s'agit de Christine Brouillet. C'est une auteure que j'ai découverte il y a quelques années. Elle est vraiment connue pour la série policière québécoise Maud Graham.
Oui.
21 volumes en fin 2023, puisque le dernier volume est sorti à la fin de l'année. Cette série a habitué les lecteurs canadiens aux enquêtes policières de son héroïne, qui est une gourmande patentée, accompagnée de sa chatte siamoise Ernestine.
Tout aussi gourmande, c'est ça ?
Non, Églantine, pardon. Tout aussi gourmande, et qui, pour diminuer la tension, parfois diminuer le découragement de ses équipes, aime inviter ses amis à déguster des plats raffinés, arrosés de grands crus et de thé rare. C'est une auteure vraiment qui, avec cette série, a eu un succès énorme. 700 000 exemplaires vendus jusqu'à ce jour. Mais je ne vais pas vous parler de cette série-là. Je vais vous parler en fait d'un polar gastronomique qu'elle a écrit en 2018 qui s'appelle Chambre 1002, qui est publié aux éditions Druide et dans lequel elle poursuit sa veine polaro-culinaire en quelque sorte, tout en célébrant l'amitié féminine et en suivant deux enquêtes. J'ai adoré ce principe-là. Une enquête, bien sûr, policière pour découvrir qui est derrière ce qui semble un acte prémédité, l'accident de voiture qui plonge l'héroïne Hélène Holcombe, la chef étoilée du restaurant de Montréal, Streg, dans un long coma. Et une enquête olfactive que mènent ses cinq amis, Marie, Gabrielle, Viviane, Ornella, Justine, qui se relaient à son chevet. Donc là, on a le lien aussi avec la cuisine de la consolation, parce qu'elles essayent de tirer Hélène des limbes qui la rapprochent de la mort pour la sortir de sa torpeur comateuse et qui opère avant tout le miracle de transformer le service hospitalier où elle se trouve en un univers où l'humanité des êtres se dévoile et s'épanouit. J'ai retrouvé l'idée géniale du dramaturge Coppi, franco-argentin, qui avait écrit dans sa pièce Une visite inopportune en 1987, une sorte de défilé de personnalités qui s'agitent et qui agitent le chevet d'un malade pour exorciser la peur de la mort. Et ici, il s'agit d'une sorte de visite opportune et pas inopportune qui célèbre le pouvoir de la cuisine porteuse de vie. C'est un roman dans lequel l'auteur insère de nombreuses recettes au gré des tentatives de ses muses, comme elle les appelle, auxquelles se joignent petit à petit des patients, des infirmières et un être tout droit sorti du passé secret d'Hélène qui s'appelle Aymeric Brunner, dont je ne vous dis pas qui il est. Des recettes et des essais qui dressent peu à peu le portrait olfactif d'Hélène, mais aussi de la société québécoise, ouverte aux saveurs de l'Asie, de la vieille Europe ou de l'Orient. Et on trouve d'ailleurs dans ce roman toute une série de recettes. Je vous en donne quelques-unes. Vous allez voir que ça part dans tous les sens. Baklava, caille aux cerises, cake aux olives provençales, ceviche de poisson blanc, clafoutis, curry d'agneau, gravlax de saumon, minestrone et ossobuco. On a une tarte à la tomate. Bref, je ne vous révélerai pas lequel de ces plats, laquelle de ces recettes aura le pouvoir magique ensorceleur, puisque Streg, le restaurant, veut dire en italien sorcière, de réveiller la Belle au bois dormant. Et si j'ai un peu le temps, je voudrais vous lire juste un petit extrait d'une saveur qui pourrait réveiller la Belle au bois dormant, mais qui ne la réveille pas. Il faudra lire le livre pour savoir laquelle. Il se félicita d'avoir déniché une truffe blanche d'Albe. Aymeric saisit le bocal de verre et dévissa lentement le couvercle, retenant son souffle. La truffe allait-elle tenir ses promesses et libérer son riche parfum animal ? Il ne s'expliquait pas comment un végétal pouvait évoquer la fourrure d'une bête, mais c'était à du petit gibier qu'il pensait en humant la bille sombre qui livrait maintenant des effluves d'humus. Il approcha le bocal du visage d'Hélène, lui promettant de lui préparer sa fameuse omelette quand elle se réveillerait. « Je range les œufs avec la truffe quelques jours avant de faire l'omelette, bien baveuse comme il se doit, et je te jure que... » Un gémissement. Avait-il entendu un gémissement ? Il colla le bocal sous les narines d'Hélène qui fronça le nez, gémit à nouveau, fit un léger mouvement de la tête. Il ne rêvait pas.
Précisez-nous les références de ce roman québécois.
Christine Brouillet, Chambre 1002 aux éditions Druide. C'est un roman de 2018.
Et précisons que Christine Brouillet, qui est présente au Festival du Livre de Paris, dédicace en ce moment, hein, on est dimanche, son nouveau livre, jusqu'à 12h30 au Pavillon d'Honneur. C'est bien ça, on arrive au terme de cette émission. Mais signalons, pour donner envie à nos auditeurs et nos auditrices de lire la cuisine de la consolation de Stéphanie Schwarzbrod, récits et recettes chez Actes Sud, qu'il y a aussi en filigrane, c'est même un peu peut-être le fil conducteur de votre livre, la figure maternelle, votre maman que vous avez perdue il y a 4 ans, qui était une très grande cuisinière. Mmh. Et j'ai un peu le sentiment que ça a été une thérapie, cette quête et cette enquête, pour mieux finalement tisser et garder le lien avec votre maman.
Je dirais plutôt un voyage initiatique vers une consolation. Mais effectivement, oui, c'était une manière de me raccorder avec elle, oui.
Il y a un très beau carnet de recettes de votre maman. Il y a notamment cette superbe terrine de foie de volaille qui, paraît-il, vaut des points.
Hein. Oui, oui.
Bah, elle faisait aussi le gratin dauphinois, elle mettait du jus de viande dans sa salade verte avec un bon Saint-Marcellin. Voilà, c'est ça. Et c'est aussi un très beau portrait, très émouvant, très sensible de votre maman. Merci beaucoup, Stéphanie Schwarzbrod.
Merci beaucoup.
La cuisine de la consolation chez Actes Sud. Et le Festival du Livre de Paris, ça continue jusqu'à ce soir, 19h. Merci au Festival pour son accueil. Merci aussi à vous, cher public. La semaine prochaine, on se met à table avec un monstre sacré de la littérature que connaît par cœur un certain chroniqueur présent à cette table et qui sera là pour nous en parler. Je vous laisse l'annoncer, Stéphane Solier.
Le grand Alexandre Dumas.
Alexandre Dumas, père à table. Et cette émission sera diffusée à l'occasion du Festival des mots et des mets qui se déroule du 19 au 21 avril à la Cité internationale de la langue française. Précisons d'ailleurs que vous y serez, hein, Stéphane, dimanche.
Effectivement, on présentera aussi un petit spectacle, une mise en voix de notre livre d'Artusi avec Alessandra Pierini, notre autre chroniqueuse italophage, italophile.
À dimanche prochain, si vous avez encore faim.